Principalement, en fait, ce matin, sous l'aspect politique d'abord, à travers les deux premières interventions, celui donc de la virtualité du corps politique, et pour finir la matinée, on travaillera davantage sur la question de la mémoire, qui sera abordée en rapport à la question de l'espace et du lieu. Je vous remercie et je donne donc la parole à Marcello Rosati.
Vitalo Rosati,
qui va donc nous parler du pouvoir du virtuel entre dynamis et potestas.
Alors, merci beaucoup. Je vous demande pardon, mais je parle debout parce que j'ai l'habitude de le faire. Et parce que comme on va parler d'Aristote, tout va l'air être un peu paripéticien, c'est pas mal. Alors, l'écrivain américain, je commence avec une anecdote, l'écrivain américain Richard North Patterson, qui a écrit, il avait écrit un livre sur un thriller sur Ben Laden, et le jour où il rend son manuscrit à l'éditeur, il voit à la télé que Ben Laden est mort, et que donc tout son livre qui tenait sur le fait que Ben Laden était caché dans sa grotte, etc., et qui dirigeait les opérations terroristes dans le monde, bah, il était mort. Donc ça tenait plus, son livre n'est pas sorti. Et en fait, il a trouvé une solution parce qu'il a fait un livre numérique où le lecteur avait la possibilité de choisir. Bon, il a fait un truc interactif assez chouette. Donc c'est un peu la même chose qui m'est arrivée quand je me suis mis à travailler, bon, quand j'ai fini mon livre sur les concepts de virtuel, parce que si, je suis tombé sur le graphique d'une grande viewer, qui est, bon, ça c'est en anglais, mais en français c'est plus ou moins la même chose, avec un peu de retard, mais si vous voulez, il y a un pic de l'usage du mot virtuel en 2003, et là maintenant, je pense que ça commence à chuter et je crois que ça va continuer. C'est-à-dire qu'il y a un effet de mode du mot virtual et virtuel en français. C'est vraiment plus ou moins la même courbe. Intéressant de voir croiser avec digital et numérique. Numérique, ça fait plus ou moins les mêmes effets avec un peu de retard. C'est-à-dire la mode part un peu plus tard, mais ça descend aussi. En effet, il y a eu une mode du virtuel qui a commencé avec la réalité virtuelle, donc, comme on le disait hier, 84-85, et aujourd'hui on l'utilise un peu moins, ou on a tendance un peu à l'oublier, on se demande est-ce qu'il y a quelque chose de virtuel dans les nouvelles technologies ou pas. Peut-être hier on disait non, en fait il n'y a rien. Milad proposait d'autres mots pour interpréter la virtualité du numérique. Donc moi je reste de l'idée que virtuel peut être un mot signifiant dans ces domaines et qu'on peut l'utiliser pour... Bon, je veux dire, c'est peut-être un peu forcé, hein, c'est performatif comme acte. C'est-à-dire, j'ai choisi d'utiliser un mot d'une certaine manière qui n'est pas probablement le sens que je donne au mot n'est pas le sens commun, peut-être même pas complètement le sens philosophique. J'essaye ce qu'on appelle une resémantisation du mot pour le faire signifier un peu ce que je veux. Et je crois que cette pratique sert un peu, hier on parlait des trônes, sert justement parce qu'il y a bien sûr une culture numérique, il y a bien sûr quelque chose qui se fait, qui se fait à l'intérieur des dynamiques, et dynamique justement, ça renvoie à virtuel, dynamique d'Internet et du web, mais peut-être on peut essayer de rentrer dans les master control systems pour le changer un peu. Donc je crois que des pratiques linguistiques, donc d'usage de mots, peuvent aussi changer le sens et l'orientation que sont en train de prendre les nouvelles technologies. Et alors, je commence avec mon titre, hein, qui est alors qui est justement le pouvoir du virtuel. Alors, ce que je vais questionner aujourd'hui, c'est justement plutôt l'aspect politique du mot, et donc son rapport au pouvoir. Alors, je vais essayer d'abord de raconter ce que j'entends avec ce mot, et après de m'y limiter en particulier à son sens et son ambiguïté politique, donc à son rapport avec le mot pouvoir, pour ensuite faire les liens avec les nouvelles technologies et avec Internet. Ça peut être un peu complexe parce que c'est très philosophique au début et seulement à la fin je vais faire l'application. Mais d'ailleurs, si je n'explique pas les structures théoriques, il est difficile de comprendre ce que j'entends dans le milieu d'Internet. Donc, j'espère être le plus clair possible. Alors, je commence par rien. Voilà. Je commence par remettre en question l'opposition classique qu'on a entendue hier aussi. Donc évidemment, l'histoire philosophique du mot, hein, ça part du Nanton d'Aristote, du Nanton qui est traduit, donc il veut dire possible en gros, qui est traduit par dans le Moyen-Âge, et en particulier la scolastique, comme on l'a rappelé hier avec Virtual, ici c'est une des 3-4 traductions possibles. Virtualis, qui après est utilisé dans plusieurs domaines, ça devient virtuel en français, et ça, bon, philosophiquement, en effet, utilisé par Bergson et Deleuze, donc là, l'idée philosophique que nous avons du virtuel, aujourd'hui, en France surtout, c'est celle de Deleuze, après reprise et modifiée un peu par Pierre Lévy, on le disait hier. Mais il y en a une autre, hein, dont je ne vais pas parler, mais qui explique, parce que sinon on se dirait, mais pourquoi alors cette idée d'immatérialité, déréalisation, etc., d'où ça vient, parce qu'en effet, ça n'existe pas dans le monde philosophique. Il y a une histoire qu'il faudrait faire, mais on n'a pas le temps, qui passe par la physique, et en particulier par l'optique, si vous cherchez dans l'encyclopédie Diderot d'Alembert, donne, quand il parle des virtuels, parle immédiatement de physique et d'optique, donc du foyer virtuel, hein, et en mécanique aussi, des principes de Bernoulli, des puissances virtuelles. C'est, je pense, un peu que les puissances virtuelles, c'est toutes les forces qui définissent un objet. Pour le comprendre vite, je ne suis pas du tout spécialiste, quelqu'un pourrait se fâcher par mon explication, mais bon, en gros, la même différence qu'il y a entre masse et poids, c'est-à-dire la masse, c'est l'ensemble des forces que je dois appliquer à un objet pour en donner, c'est-à-dire, à chaque fois, dans des conditions de gravitation différentes, j'ai un poids différent d'un objet qui a la même masse. Mais alors, toutes les forces que je pourrais appliquer dans toutes les différences, dans toutes les différentes situations, c'est des puissances virtuelles. Donc le virtuel est plus que le réel, etc. Bon, mais sans passer par physique, donc ça c'est ce que je crois, ça explique l'idée de déréalisation, etc. Et je crois aussi que l'idée physique de virtuel dérive en effet de l'idée philosophique, il y a un glissement sémantique, on pourrait peut-être l'analyser. Mais pour rester à l'idée deleuzienne, alors, ce virtuel versus actuel, donc d'une part, on a un principe de mouvement. Virtuel, traduction du Nanton, dynamis, dynamique. Donc, le virtuel est quelque chose qui produit le mouvement, donc qui est multiple parce qu'il peut produire du nouveau, de la nouveauté. Donc, il est un mouvement, il est instable, il est ouvert. Hein, on ne peut pas le bloquer, il est... Deleuze parle d'un brouillard d'images virtuelles, donc c'est quelque chose qui est là, qui insiste, comme nous le disait hier l'intervenant qui parlait de Deleuze. Tandis que l'actuel, c'est la cristallisation, c'est-à-dire c'est unitaire, figé, immobile, stable, fermé. Donc il est là, on le voit. Donc le virtuel est ce brouillard et l'actuel est la chose, la singularisation. Je voudrais mettre en discussion cette distinction et cette opposition parce que je crois que le problème ici, dans cette contraposition virtuelle actuelle, est justement le concept d'actuel qui n'est pas clair du tout. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'essaie de donner une définition hyper rapide, puisqu'on en parle depuis une journée, du mot virtuel. Et donc, est-ce que j'ai la définition? Non, je ne l'ai pas, mais je pars d'ici. Alors, dans les carrés deleuziens, comme on l'a vu hier, il y a les virtuels qui s'opposent à l'actuel et les possibles qui s'opposent au réel. C'est-à-dire, Le possible, c'est quoi? C'est comme dans une lancée des dés. 6 est possible. Donc possible, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, j'élance et j'ai une chose qui se réalise. Quelle est la différence entre le 1 possible et les 1 réels? Aucune. Il n'y a aucune différence. C'est simplement que l'un existe, l'autre n'existe pas. Donc le possible, justement, Deleuze fait comprendre sur le sillage de personne que c'est simplement un après-coup du réel, c'est-à-dire bon, il y a la réalité et après je la projette à l'arrière. Il dit, personne dit dans la pensée de le mouvement cette très belle phrase, le possible n'est pas le possible, rien n'est possible, tout aura été possible, c'est-à-dire j'ai besoin d'être dans les réels pour rétroprojecter la possibilité du possible. Bon, voilà. Et donc, les virtuels, par contre, s'opposeraient à l'actuel. Donc, ce mouvement et les deux, virtuel et actuel, composent les réels. Donc, ce que je mets en question dans ces carrés sémantiques de Deleuze, pour que je l'aide à l'heure aussi, c'est un peu sa forme. C'est-à-dire que, de cette manière-là, on a l'impression que, si on fait une proportion, hein, comme une proportion mathématique, on aurait un peu l'impression, et d'ailleurs c'est comme ça que Deleuze le formule, on a un peu l'impression que le virtuel est à l'actuel ce que le possible est au réel. Et bon, là c'est faux, parce que c'est complètement faux. Et même si Deleuze, heureusement il y a pas les Deleuziens hier, dont le nom m'échappe, je suis désolé. Boinich, oui, voilà, Boinich. Et donc qui ne savait pas content de ma lecture, qui est un peu hérétique de Deleuze, peut-être dû aussi à une mécompréhension, hein. Mais j'ai l'impression que Deleuze, en effet, fait ça. C'est-à-dire, il y a d'une part virtuel actuel, le virtuel est à l'actuel, ce que le possible est au réel. Donc, du coup, finalement, il n'arrive pas à résoudre le problème qui était celui d'Aristote, c'est-à-dire de la primauté, au moins ontologique, de l'actuel sur le virtuel, ou mieux pour Aristote, de l'entelecheia sur le dynaton, c'est-à-dire l'acte est plus important, est bien avant, il y a une primauté ontologique de l'acte sur la puissance, c'est-à-dire que dans la fameuse position est-ce qu'il y a d'abord la poule ou l'œuf, selon Aristote, sûrement il y a d'abord la poule, hein, qui est donc la virtualité de la poule, donc l'œuf, hein, pour Aristote, c'est simplement, on ne peut le comprendre, on ne peut l'expliquer, et il n'a une valeur ontologique que en relation avec l'acte fini, c'est-à-dire la poule. Deleuze essaye de le mettre en question, mais je pense que dans la cinématique de l'œuf, justement, il fait comprendre qu'il n'a pas fait du tout, c'est-à-dire qu'il y a une primauté sur la chose finie, hein, la chose actualisée, par rapport à, justement, tous les mouvements horribles, je ne me rappelle plus les descriptions, qui s'effondrent dans l'œuf. Hein, donc c'est ça que je voudrais mettre en question, parce que qu'est-ce qu'est l'actuel? En effet, si on reprend cet exemple de l'œuf, et si on reprend surtout l'exemple de l'embryon, c'était ce que j'ai... la question que j'ai posée hier, hein, je n'ai pas pu m'empêcher de l'anticiper hier. Bon, si on prend les développements de l'être humain et le passage d'un embryon à un bébé, etc., un nouveau-né, etc., on s'est rendu vite compte qu'il est impossible d'établir un moment d'actualité, c'est-à-dire l'âge adulte est un mythe, est une abstraction. Il faut une loi pour établir quand est-ce qu'on est adulte. Donc, quand est-ce qu'on est actualisé, quand est-ce qu'on est arrivé, quand est-ce qu'on est achevé, 18 ans en France, mais avant c'était, je sais pas, en Italie c'était 21 ans, je ne sais pas si en France aussi. Donc voilà, il nous faut une loi. Et c'est un peu le même problème de quelle photo on met sur la tombe de quelqu'un. C'est exactement le même problème. C'est-à-dire, c'est quoi moi? C'est quoi mon état achevé? Il y a un moment, si on pouvait avoir un N-gram viewer de la vie d'un homme, il faudrait trouver le pic pour dire, bon, là il est achevé et là il commence. Donc c'est pas possible, c'est une abstraction. Et en général, l'exemple de l'homme est très utile, mais je pense qu'il n'y a pas d'actuel. L'actuel n'existe pas. L'actuel est une abstraction faite par notre raison, c'est-à-dire nous avons besoin d'imaginer des choses finies, justement, parce que, par exemple, comment on fait pour dire si tu peux aller voter ou pas? On a besoin d'avoir une loi qui nous dit quand est-ce que tu es un homme à 18 ans. Très bien. Tous les problèmes, bon, à chaque fois, notre langage, nous avons besoin de trouver un point que nous cristallisons, mais cette cristallisation est une abstraction, c'est-à-dire ce n'est pas le réel. Donc je ne pense pas du tout que le réel soit fait par virtuel plus actuel. Le réel est seulement virtuel parce qu'il est seulement un mouvement. Et donc c'est un acte d'abstraction de notre raison, et surtout c'est le fonctionnement même de notre langage qui nous oblige à trouver des moments où on bloque ce flux et on se dit, bon, là c'est bon. Même chose si on prend les œuvres d'art, hein, c'est la même chose, c'est-à-dire quand est-ce qu'une œuvre d'art est achevée, bon, on prend la Joconde, je ne sais pas, quand Léonard est mort, finalement. Donc c'est-à-dire, ça aussi c'est une abstraction. Et alors, mais après, la Joconde continue sa vie parce qu'il y a des matériaux qui s'abîment, qui changent, etc. Et c'est justement le problème d'inventer, de construire un actuel, c'est le problème de la restauration. Comment on fait la restauration d'un tableau? Il faut établir un moment où on se dit, bon, là c'était fini, là c'était actualisé, mais c'est une abstraction. Donc, si on doit reformuler les carrés sémantiques de Deleuze, selon moi, ce serait plutôt au contraire, c'est-à-dire les virtuels et l'actuel, c'est que les réels est au possible, c'est-à-dire les possibles et l'actuel sont deux abstractions. On part de quelque chose de virtuel, d'un mouvement, on part de quelque chose de réel, on fait l'abstraction du possible en rétroprojectant, on fait l'abstraction de l'actuel en cristallisant. Donc ça, c'est mon interprétation. Donc qu'est-ce que, dans cette idée-là, virtuel, ben, le virtuel est ce qui caractérise le réel en tant que flux, en tant que flux continu. Et là, j'ajoute une petite notion qui me semble significative, surtout par rapport à la question du numérique, c'est que ce flux-là est un flux continu, continu dans le sens mathématique, c'est-à-dire qu'il n'est pas discret, il y a une position à discret. Donc c'est un flux continu. Et là, je trouve que c'est passionnant de voir comment les problèmes qu'Aristote avait, on va y revenir rapidement, pour définir les rapports entre actuel et potentiel, bon, entre Dunaton et Telegeil, étaient très liés justement à sa conception du continu et à toute sa polémique contre les philosophes comme Zénon, qui donc soutenait qu'il n'y a pas de mouvement. Donc, en effet, le grand pourquoi le paradoxe de Zénon étant justement basé sur la difficulté pour notre pensée et pour notre logique de passer du continu au discret et du discret au continu. Les paradoxes de Zénon, c'est assez significatif. Ils ont eu plein de solutions, et ils en ont une, hein, on arrive à les résoudre, mais il y en a eu tellement que, comme le disait Russell, quand un problème a trop de solutions, ça veut dire que ça reste un problème, et en plus, ça reste, donc en effet, la solution, disons, la plus utile est arrivée seulement avec l'analyse mathématique et Leibniz, donc quand même 2000 ans plus tard, 2100 ans plus tard que le problème a été posé par Zénon. Donc il y a ce problème de passage entre le continu, donc ce flux continu, et la discrétisation. La discrétisation, en effet, ressemble un peu à cette prise d'instant actuel, actualisée, une série de cristallisations. Alors, très bien, ben je vous fais voir ce petit dessin. Donc, évidemment, A et B, c'est cette idée du réel comme quoi il y aurait un avant et un après, donc des instants qui sont 1, 2, après on peut échantillonner comme on veut, ça peut être plus ou moins reproché, mais là, dans cette conception-là du réel, Achille n'est régent pas la vertu, donc A, B, ça c'est l'actuel A, l'actuel B, et donc dans l'idée de possible réel, par exemple, on dit bon, d'abord il y a des choses possibles, et après il y a des choses réelles. Et dans l'opposition de virtuel actuel, même si Deleuze essaye de la mettre en question, hein, mais en tout cas, l'actuel c'est quoi? Bah, d'abord il y a une série de virtualités, après, bon, pouf, il y a quelque chose qui apparaît. Là, le problème d'Aristote était pas sur l'embryon aussi, mais surtout c'était la maison dans la tête de l'architecte. Il y a la maison dans la tête de l'architecte, et après, tiens, il y a une maison. Le problème, évidemment, n'est pas de penser, mais pourtant notre langage est comme ça. Nous n'arrivons pas à dire le contenu du mouvement. Nous disons chaise, et après, nous disons chaise cassée. Nous ne pouvons pas dire Notre langage peut échantillonner le réel, mais il ne peut jamais dire le mouvement continu du réel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le virtuel est la réalité en tant que flux continu. Donc, tout cela pose un certain nombre de problèmes. Et c'est à ce moment-là que la réflexion sur en quel sens le virtuel est une force s'impose, en quel sens le virtuel est une force et en quel sens le virtuel est un pouvoir, j'y reviens au titre de mon intervention. C'est-à-dire, je vais essayer de me concentrer sur l'aspect politique, aussi pour expliquer quel est le rapport entre cette conception du réel comme continuum et cette conception comme discret. Alors, et pour faire, bien évidemment, je vais revenir à notre ami Aristote et aux significations des dunatons. J'espère que Aude sera gentille avec moi et qu'il ne me reprochera pas, là aussi, mon manque de rigueur. Surtout parce que c'est très schématique ce que je propose ici. Donc, évidemment, selon moi, il y a une ambiguïté de fond. S'il y en avait qu'une. Mais bon, il y en a une en particulier par rapport à la valeur politique du mot chez Aristote, notamment en métaphysique Delta 12. Aristote donne une définition, bon, c'est le livre Delta, c'est le fameux dictionnaire philosophique, le premier dictionnaire philosophique de l'histoire, donc, où Aristote donne une définition de chaque mot, entre autres le mot de dynamis et dunaton, donc Delta 12. Mais c'est pas les seuls livres où Aristote parle de dunaton, parce qu'il en répare plus tard dans métaphysique Theta, et il en répare surtout et de façon très différente dans les topiques où il donne une définition logique de dunaton comme ce qui n'est pas nécessairement faux, ce qui pose tous les problèmes du possible, du principe de plénitude, etc. Mais je l'évoque comme ça seulement pour ici qui connaît les problèmes, parce que sinon ça serait énorme. Et c'est une autre histoire passionnante d'aller voir comment justement le possible et ce qui se réalise, il doit forcément se réaliser, sinon il n'est pas possible. Est-ce qu'il peut y avoir un possible qui ne se réalise jamais? Vous savez, comme dire, il y a un peintre qui est un peintre mais qui n'a jamais fait des tableaux et qui ne les fera jamais. Bon, voilà. Bon. Donc, tous ces problèmes-là. Mais bon, concentrons-nous sur une tension en particulier, et cette tension est présente dans Métaphysique Delta 12, où Aristote donne la définition de dunaton, et il dit, première définition, celle qui a créé, disons, le sens du concept et qui reste dans les mots virtuels, dans les mots virtualis d'abord en latin, dans les mots virtuels sûrement, qui reste chez Deleuze, chez Bergson, partout. Bon. Le dunaton est ce qui a un principe de mouvement. Donc, exemple, l'homme qui a la capacité de construire. C'est une capacité, c'est une force. Le mot qu'Aristote utilise pour ce principe, donc c'est ce qui crée le mouvement du réel, hein, c'est justement ça. C'est que le mot qu'Aristote utilise, donc dunaton, il n'a pas de signification politique. Dunaton, ça veut dire simplement possible, ça ne veut pas dire pouvoir. Donc, mais moi, j'essaie de le tirer vers la signification politique et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, là, une deuxième signification est, qui semble complètement opposée, est dunaton, et ce qui a la capacité de ne pas changer et donc de faire résistance au mouvement, c'est-à-dire de se bloquer. Alors, pour quelqu'un qui est un peu familier avec la pensée d'Aristote, c'est évident, parce qu'il prend tout ce qui est puissance rationnelle chez Aristote et puissance aussi du contraire, c'est-à-dire si je peux faire bouger un truc, je peux aussi le garder immobile, hein. C'est l'idée même de principe rationnel chez Aristote. Mais quand même, ça pourrait étonner, c'est-à-dire il y a cette ambiguïté. D'une part, ça renvoie, et c'est ce qui est arrivé dans l'étymologie de dynamique en français, par exemple, donc la dynamique, c'est quelque chose qui bouge, hein. En même temps, il y a cette possibilité de faire résistance au changement. C'est pour ça que je me suis un peu interrogé si on pouvait donner au mot dunaton une signification politique, c'est-à-dire le relier au concept de pouvoir. Dunaton, non, mais la définition de dunaton implique principe, qui est arché en grec, et arché, qui est principe, qui peut vouloir dire principe, commencement, mais ça peut vouloir dire aussi commandement, donc c'est le pouvoir. Par exemple, du général qui a l'archet des commandements. Donc, en fait, c'est ce qu'on retrouve dans, dans des mots comme oligarchie, etc. Bon. Donc, pouvoir de. Donc, d'une part, il est dynamis, hein, donc ce mouvement, il est le pouvoir de bouger, il est le pouvoir de produire du mouvement, mais il est en même temps le pouvoir de bloquer ce mouvement. Il est donc dynamis, mais il est aussi potestas. C'est intéressant parce que le mot dynaton est traduit en latin, donc avec virtualis, mais aussi avec possibilis. Et après, de possibilis, potestas, c'est le mot qui veut dire archè, en latin. Donc il y a cette analogie, tout le titre de mon intervention. Donc, pouvoir de, entre ce mouvement continu, mais la possibilité aussi de choisir ce qui se passe. Comment faire pour bloquer, c'est-à-dire que les cristallisations, finalement, selon moi, ce n'est pas de l'actuel, ça ne relève pas, donc, ou bien l'actuel est simplement un après-coup du virtuel produit par le virtuel lui-même en tant qu'abstraction et en tant que production d'un pouvoir de cristallisation, c'est-à-dire quand on ouvre une série de possibilités, celui ou ceux qui ouvrent une série d'alternatives a aussi la possibilité après d'en cristalliser une. Exemple, c'est le fameux exemple, j'aime bien citer les expériences de Muybridge, donc c'est ça, on revient à cette distinction entre continu et discret, donc d'où toute la polémique après entre Bergson et Deleuze, où Deleuze dit mais non, c'est du vrai mouvement parce que finalement il se réfère plutôt à la donc Bergson disait que le cinéma c'est une arnaque finalement, c'est ça qu'il dit dans Matière et mémoire, c'est plutôt intéressant. Et Deleuze lui dit, ben non, t'as rien compris, parce que c'est une expérience d'un point de vue phénoménologique, quand on est dans la salle, on voit le mouvement, on adhère, etc. Oui, sauf que je pense que là, Bergson était plus profond que Deleuze ne le croyait, c'est-à-dire que d'un point de vue ontologique, ce qui caractérise l'expérience du cinéma, et je pense que ce qui nous donne la jouissance de l'expérience du cinéma, c'est le fait que nous pouvons arrêter l'image quand nous voulons. C'est l'image, donc, à quelque chose d'objectivable dans le cinéma, ce qu'elle n'a pas dans le flux du réel. Donc, le mouvement, en effet, est géré et contrôlé par une machine, ce qui n'est pas le cas dans notre expérience du réel. C'est-à-dire, si moi, là, maintenant, je me suis trompé sur un mot et que je veux faire retour en arrière, je ne peux pas. Et si je veux voir exactement le photogramme de cette salle à un moment donné, ou bien je demande à Manuel d'en prendre un avec son iPhone, ou bien je ne peux pas... Ouais, Louise, c'était plus facile. Il y a quelqu'un qui n'a pas un Mac, donc j'ai choisi le seul. Donc, ou bien je n'ai pas de photogramme. Alors, les cinémas, mais pourquoi donc les expériences de Muybridge ne sont pas des expériences pour rendre la continuité du mouvement, mais justement pour le fragmenter, pour faire quoi? Bah pour le contrôler. C'est-à-dire, notre science pour dire, bah, question, est-ce que le cheval a les quatre pattes à l'air au bout d'un moment pendant qu'il est au galop ou pas? Réponse, je regarde, bah, je ne vois pas. On n'a pas la capacité de contrôler les réels tant qu'il est en mouvement. Mais on ne l'a pas seulement pour un problème perceptif, et c'est ça que Deleuze peut-être n'avait pas pris en compte quand il écrivait l'image mouvement, mais on l'a, 10 minutes, mais on l'a surtout pour un problème de langage. Notre langage, déjà la question est-ce que le cheval a les pattes en l'air à un moment donné, ça veut dire morceler le flux du réel, donc le rendre discret. Le cheval a les pattes à l'air un moment, bah ce moment-là, c'est l'abstraction d'Achille et de la tortue. C'est exactement cette discrétisation qui ne marche pas. Donc, le virtuel est en même temps ce qui ouvre le mouvement, donc ce qui détermine ce flux continu, mais est aussi ce qui permet de choisir un moment où se dire, bon, là, je l'arrête. Donc, le pouvoir de résister au changement. Là, j'arrête. Donc, il y a cette ambiguïté de fond qui est l'ambiguïté de fond. Donc, pourquoi cette ambiguïté? Bah, je pense que il y a quelque chose qui relève vraiment de l'identité de l'homme, hein, de ce qu'est l'homme. Là, j'ai tenté une définition de l'homme, puisque de toute manière, tous les philosophes doivent dire des conneries au bout d'un moment. Donc, je sais de faire et que ça passe le mieux possible.
Oh, là, on a fait Dieu, l'origine.
Nous avons parlé, oui, on peut faire des choses comme ça. Donc, nous avons besoin de gérer la réalité. Et nous avons en même temps besoin de tenir compte du mouvement. Okay, parce que sinon, ça nous échappe. Donc, il y a quelque chose qui bouge, nous voyons que ça bouge, et nous devons tenir compte du fait que ça bouge et en même temps le gérer. Le cinéma, c'est génial. Ça tient compte du mouvement, parce que ça nous fait voir du mouvement, mais en même temps, ça nous donne la possibilité de le gérer. J'ai l'impression que ça, c'est ce que j'appelle le mensonge du mouvement, c'est-à-dire faire croire qu'il y a du mouvement continu, quand en réalité, il n'y en a pas. C'est-à-dire, c'est une série d'instants l'un après l'autre. C'est une discrétisation. Et je pense qu'on pourrait essayer justement une définition de l'homme en tant qu'animal technique. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, je déconne pas trop, je reste dans une tradition, le mythe de Prométhée, etc. Bon, voilà, l'homme est un animal technique qui n'a pas de nature, mais sa nature lui vient de l'extérieur, de l'outil, etc. Bon, très bien. Mais ça veut dire quoi, être un animal technique? Ça veut dire avoir envie de gérer le contenu du mouvement à travers une discrétisation. Ça, c'est la typicité, selon moi, de notre langage et de notre science en général. C'est ça que notre science fait, et finalement, les calculs différentiels et l'analyse mathématique font la même chose aussi. C'est-à-dire qu'on essaie, c'est un truc hein, pour résoudre cette difficulté de relation entre continu et discret. Évidemment, on m'a une fois dit, on fait l'opposition, oui, mais ça, c'est une définition très occidentale. Bah oui. Oui,
assumons.
Je veux dire oui, sûrement. Mais je parle depuis la culture que je connais et de la culture que je connais, donc en effet, sur notre définition universelle, elle ne l'est pas. Donc, et Internet dans tout cela, je ne vais pas tisser les liens un par un. Je pense qu'il y a quelque chose de virtuel. Pourquoi il y a quelque chose de virtuel? Parce que Internet, ça nous met d'abord en relation à quelque chose de un mouvement qui est dans le temps réel. Et là, j'ai une interprétation un peu différente que celle que proposait hier Bruno Bachelon, c'est-à-dire le temps réel n'est pas simplement l'immédiateté, mais c'est vraiment le flux. Mais bon, je ne rentre pas dans cette affaire-là. On peut l'interpréter comme flux. Oui, c'est immédiat, oui, mais immédiat, pas dans le sens de force, pas forcément, j'entends l'argument de Bachelon, mais pas forcément dans le sens de l'aplatissement dans un instant unique, mais finalement, comme il se présente comme un flux où ce qui compte n'est jamais le passé ou le présent ou le futur, mais ce qu'Aristote appelait l'opothéon, ce qui était toujours l'être, hyper difficile de traduire cette expression. Donc, c'est le petit truc qui n'a pas de tension et qui bouge sur la ligne du temps. Bon, donc, Internet, il est un mouvement, donc il nous donne cette chose-là. Selon moi, il y a une relation étroite entre le cinéma et Internet, c'est quoi? C'est justement qu'ils nous donnent l'illusion du mouvement et en réalité, ils sont discrets. Ils sont discrets, pourquoi? Parce que c'est justement géré techniquement. Il est discret en premier lieu parce qu'il est numérique, justement. Et là, on revient à la fameuse distinction entre numérique et analogique, où, si vous y pensez bien, moi, je ne sais pas si c'est une perception que j'ai eue, j'ai encore 5 minutes, plus ou moins. C'est un peu l'impression... je triche, je ne trouve pas.
Je calcule infinitésimal.
Oui, voilà. Donc, j'arriverai jamais à la fin de mon intervention parce qu'à chaque fois, il y aura la moitié du
si
temps.
Si tu continues de fragmenter le flux, on ne va pas y arriver.
Exactement. Donc, non, mais je parle depuis une demi-heure. Attends. Donc, la fameuse distinction entre numérique et analogique, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est l'impression que j'avais eue à l'époque, quand les CD sont sortis, on disait, c'est de la qualité meilleure, c'est la meilleure qualité. Pas vrai, parce que l'analogique, les vinyles, est de meilleure qualité, forcément, il n'y a pas d'échantillonnage. Et pourtant, on avait cette impression-là. Pourquoi? L'exemple que je fais à mes étudiants à chaque fois pour expliquer ça, c'est que un fichier MP3, je peux le transmettre par téléphone à le 10 ans, il me faut beaucoup de temps, mais je peux le faire à quelqu'un. Je ne perds pas de qualité. J'ai dit 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Bon, voilà, j'ai transmis les fichiers. Tandis que si j'ai un vinyle avec Yesterday, je peux la chanter, bien sûr, je peux lui faire écouter, mais je ne lui ai pas transféré les données. Donc voilà, je les gère mieux, c'est ça le truc. Et j'ai moins de pertes de données dans la reproduction et dans la multiplication des supports. Donc, quelles sont donc les implications politiques de ces structures? Et là, j'essaie de finir le plus rapidement possible. Si on revient à l'exemple de Google qu'on faisait hier, j'ai trouvé passionnant l'exposé de Manuel, justement pour ça, parce que déjà, tu avais essayé de dire que le virtuel peut être aussi une singularisation, à différence de ce que dit, et donc ça va complètement dans mon sens. Et justement, tu montrais de façon très pratique, au contraire de ce que j'ai fait, les effets d'ouverture et de fermeture du numérique. C'est-à-dire, d'une part, il y a des nouvelles possibilités qui s'ouvrent, augmentation, etc. Et de l'autre part, il y a quelque chose qui se ferme, c'est-à-dire un contrôle. Moi, j'aime bien parler de liberté et contrôle. D'une part, Internet est né aussi d'un modèle libertaire et libéral, sans, comme le dit Dominique Carnot. Donc, il y a cette ouverture à la liberté et en même temps, c'est un système de contrôle. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Selon moi, parce que c'est structurel. Ce n'est pas quelque chose de comment on utilise la technologie, mais c'est structurel à la technologie. Le numérique, Internet, est construit sur cette ambiguïté de fond, c'est-à-dire il est en même temps un mouvement, donc quelque chose qui produit ce réel dynamique, et en même temps quelque chose qui permet l'arrêt sur l'image, et donc la gestion, et donc le contrôle. Exemple Google. Google, c'est génial au niveau d'ouverture, si on ne veut pas être idéologique et les condamner tout de suite, c'est-à-dire il donne accès à une quantité d'informations qui est inouïe. Quand il y a quelques années, Google n'existait pas, il était très difficile de trouver des informations, et on en trouvait très peu, et on trouvait les informations justement sur les médias traditionnels qui ne sont pas beaucoup, etc., etc. Donc il y a cet effet indéniable d'ouverture. Et en même temps, ce que les pratiques imposent à la fin, c'est la première réponse Google, donc, qui devient presque, qui risque la pensée unique. Il y a d'une part l'ouverture de l'accessibilité des données, d'autre part le contrôle des données par la même machine qui en garantit l'accessibilité. Donc, donc c'est toujours entre ce mouvement et cette fermeture. Donc c'est un réseau ouvert qui facilite l'échange d'informations, n'importe qui peut publier, aucun prix pour la reproduction et la distribution, il n'y a pas les filtrages éditoriales, il n'y a pas de distinction d'autorité, donc il y a une liberté, il y a une dynamique des contenus qui sont toujours ouverts, on peut les changer, un contenu est toujours un work in progress, etc. Mais en même temps, c'est un réseau qui n'est pas un réseau pur, c'est un réseau centralisé, le protocole TCP/IP, ce qui est public n'est pas pour autant visible, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre la publicité de quelque chose et le fait qu'elle soit accessible. L'acte de production ne démarre pas des usagers très souvent, mais de ceux qui produisent les plateformes. Il y a une élite technique, donc une pratique, une compétence nécessaire pour pouvoir gérer, etc., etc., etc. Donc il y a un effet de la transparence de la technique devient transparente, donc du coup on a l'impression que c'est justement comme quand on est au cinéma, on adhère au mouvement et on oublie qu'il y a une machine qui le fait marcher, etc., etc. Donc, je pense que, pour finir, le mot virtuel a en effet rend compte de cette ambiguïté et nous fait comprendre aussi d'où elle vient, du point de vue technique et du point de vue, disons, ontologique. Merci.
Alors, je pense qu'il y aura beaucoup de questions, donc je... Voilà, je laisse aussi de la parole, j'en ai aussi quelques-unes, mais je dis qu'à la salle.
Bonjour, François Colbeffy, je suis Orange Lab, parce que l'ARL de France Télécom, si tu restes. Moi, je n'ai pas un outil conceptuel. Hein. Simplement, j'ai juste des remarques par rapport à l'opposition discret et continu. Je viens de la technique, alors voilà. Juste le risque d'opposer discret et continu, c'est de ramener le, on dirait la discrétisation, une simple description d'un signal. Alors vous avez évoqué des équations différentielles, et l'idée c'est qu'on a bien cette description, plus un potentiel, plus une énergie, et l'équation différentielle permet en fait, effectivement, c'est un moyen de décrire la transformation. Et est-ce que la résistance à cette transformation, est-ce que c'est un blocage ou autre, mais est-ce que c'est pas simplement le fait que cette équation différentielle, elle est écrite, elle correspond à un modèle, peut-être qu'elle ne décrit pas tout le réel, etc. Mais que ce n'est pas cette résistance, est-ce que cette résistance au changement ne décrit pas en fait la contrainte sur cette transformation qui est décrite par l'équation, c'est tout. Pour atténuer un peu cette opposition entre discret et continu.
Ouais, je voudrais dire un peu la même chose. Enfin, moi, j'ai fait des études d'automatique et à l'époque, on étudiait des calculateurs différentiels, les premiers microprocesseurs 80-80, Intel, et la même chose sur des calculateurs analogiques. Et on résolvait des systèmes avec des calculateurs analogiques qu'on ne résolvait pas encore en numérique, notamment les équadifs. Et donc, je pense que vous êtes passé un peu vite sur ce point-là, moi aussi.
Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que je suis passé très vite et c'est un peu dans le signe d'une provocation. Disons, pour atténuer un peu, c'est ce qui m'intéresse plus que le fait qu'en réalité, il y ait des solutions techniques, mais ce qui permet d'ailleurs de faire faire marcher le monde, je veux dire, sinon ça ne marcherait pas du tout. Hein. Donc, en effet, ce qui m'intéresse, c'est que le problème se pose. Le problème se pose et, en effet, il n'y a pas, disons, une solution unique. Donc, il y a une solution qui avance, quand même intéressant de penser que la pensée s'y est dédiée pendant 2000 ans. Donc, c'est pas un truc... c'est pas que quand on a trouvé qu'il y avait un problème entre discret et continu, on a dit, bah tiens, on fait les différentiels et c'est bon. Il a fallu quand même un peu de temps. En effet, il y a une solution, en effet, on va dans ce sens-là. Mais je ne crois pas, après, j'avoue, très ignorant, donc surtout sur disons, la partie informatique. Hein. Donc, et j'aimerais en savoir davantage. Ce qui m'intéresse, c'est qu'au niveau conceptuel, il y a cette tension et que la science, la mathématique et l'informatique essayent de trouver une solution, mais c'est quand même un problème majeur. Et je pense qu'au niveau des raisonnements, la solution de Leibniz, c'est une solution qui marche, mais qui est très compliquée à comprendre. Ce n'est pas immédiat. J'ai cette impression-là, que c'est un problème vraiment qui se pose au niveau de raisonnement et de compréhension du réel. Après, je suis sûr que la solution technique est... Non, pas du tout. Non, bien sûr.
Oui. J'ai deux petites questions. Tout d'abord, j'étais assez surpris, mais je ne me rappelle plus exactement du texte, littéralement, que puisque tu as évoqué quand même Aristote pour parler du pouvoir et après et tout ça, si je me rappelle bien, il existe un texte dans Des mots de Animalium où il décrit le fonctionnement de la police en termes précisément de l'absence d'une figure politique, parce qu'il a une architecture qui est mise en place qui lui permet de fonctionner de manière démocratique. Et c'est exactement ce qu'on a d'un certain point de vue avec ce que tu étais en train de dire du virtuel de l'Internet. Du coup, il y a un lien déjà chez Aristote qui permet de faire ce passage entre virtuel, pouvoir, toutes ces projections. Le quoi là, il y a quelque chose à voir parce que c'est un texte qui a été repris évidemment par Leibniz dans ses débats autour du principe de la vie avec les premiers soi-disant biologistes, et on retrouve les polémiques tout à fait...
C'est sur les Descartes animales, c'est ça ?
Exactement.
Je le connais.
Ouais. Ouais, j'oublie maintenant, c'est pas 7D, mais je ne me rappelle plus maintenant, j'ai plus ça dans l'esprit. Et c'est très important, parce que je crois que c'est un texte qui a été repris surtout par Leibniz, qui pour toi, évidemment, est important. Je crois qu'il y a quelque chose là. Deuxième élément, il me semble, avec Google, je ne suis pas sûr de te suivre, parce qu'il me semble, ce qui est curieux chez Google, ils ont réussi un monopole de l'ouvert. C'est une sorte de ruse très très puissante, ce qui n'est pas nécessairement un dessin. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui doit être de cette manière, mais c'est leur jeu commercial, c'est de présenter l'ouvert, mais aussi de constituer, de former un monopole avec l'ouvert. Et c'est là la contradiction qui pose difficulté avec leur service.
Oui, et là, je ne voulais pas du tout donner là aussi un impression. l'impression de déterminisme. Hein. C'était loin de... Au contraire, et là, c'est la partie que j'aurais pu développer. Cette idée, et pourquoi utiliser le virtuel, c'est justement pour comprendre que chaque détermination, de chaque cristallisation est un moment d'abstraction et qui donc peut et doit être mise en cause et revirtualisée. Et c'est-à-dire que ce modèle me permet d'expliquer pourquoi ça peut arriver, mais ça me permet aussi de dire que donc, des pratiques, c'est à travers les pratiques qu'on va les changer. Et là, je crois beaucoup, je crois vraiment au fait que Internet peut être modifié, justement parce que cette structure est très forte dans le numérique, Internet peut être très facilement modifié grâce aux pratiques. Ce qui est moins vrai sur d'autres outils techniques, mais quand même toujours vrai, c'est-à-dire les pratiques modifient le sens et des outils techniques, donc orientent les développements techniques. Et sur dans le domaine du numérique, et en particulier dans le domaine d'Internet, ça c'est très vrai, c'est-à-dire c'est très souvent les pratiques qui déterminent la constitution des outils, et c'est le cas pour Google, c'est-à-dire Google est un succès parce que quelqu'un l'utilise, et Facebook est un succès parce que quelqu'un l'utilise, et de façon en plus détournée par rapport à l'idée initiale du créateur. Donc, je crois à ça aussi. Et c'est pour ça. Donc, ce n'était pas du tout pour donner une idée déterministe.
Jacques Perriot, oui, j'étais très intéressé par votre tour sur Muybridge. Je pense, autant que je me souvienne, sans des souvenirs lointains, Deleuze traite ce cas isolément. Or, moi, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle l'archéocinéma, c'est-à-dire, au fond, comment maîtriser et simuler la persistance rétinienne. D'Aristote directement jusqu'aux frères Lumière en passant par Muybridge. Or là, vous introduisez cette notion de discrétisation et mon premier sentiment est que toute l'histoire du cinéma et sa préhistoire peut constituer un champ d'application d'une étude de ce que je pourrais appeler une génétique de la discrétisation qui donc se comprend, se lit par rapport au fait que nos sens nous dupent, comme dirait Umberto Eco. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et ce que je voulais vous demander, c'est par rapport alors à Internet et autre chose, quel est l'ennemi, c'est-à-dire pour l'archéocinéma, ça a été la persistance rétinienne qui nous a créé des illusions. D'ailleurs, au passage, l'ultime moment de la discrétisation pour les frères Lumière, pour le cinéma, c'est l'introduction de la croix de Malte qui permet la discrétisation qu'ils avaient vue à partir d'une machine à coudre. Donc on a cette génétique. Mais est-ce que vous avez le sentiment que par rapport à ce que vous avez dit sur Internet, on a à lutter contre un allant de soi ? Quelque chose que nous pensons aller de soi, qui en fait est beaucoup plus compliqué, comme la persistance rétinienne a été très compliquée pendant presque 2000 ans.
Merci beaucoup de la question, c'est très intéressant parce que ça implique un lien entre ce que je fais et mon approche, qui est une approche très ontologique, hein, c'est-à-dire, et avec une approche telle qu'on voyait hier par exemple, qui est plus phénoménologique, c'est-à-dire voir pourquoi. Cette illusion du mouvement et comment ce mensonge du mouvement peut fonctionner. Et je crois que c'est une vraie thématique. Je ne sais pas si on peut vraiment faire les parallèles jusqu'à ce point-là. J'en suis pas sûr et je n'ai pas travaillé sur ça. J'ai l'impression que toute la question justement de la déréalisation ne soit pas, c'est pas là qu'il faut chercher. Ce serait plutôt peut-être dans les cadres de ce que disait Bachimon hier, c'est-à-dire cette idée où on perd la relation avec quelque chose qui a une profondeur, qui est gérée par des machines, etc. Mais peut-être c'est dans ce sens-là qu'il faut le chercher, mais sincèrement, je comprends l'intérêt du parallèle, mais je ne saurais pas le développer. Mais,
oui, donc, finalement, ta position, elle est un petit peu différente de celle qu'on a pu tenir à d'autres moments, puisque tu dis, oui, il y a bien dans Internet quelque chose de plus virtuel, quoi, hein, que dans d'autres. Je suis assez, je pense, d'accord en un sens. C'est-à-dire que, si je reviens à mon analyse des services, contrairement à l'édition de livres. C'est-à-dire que dans l'édition de livres, on fait un objet, et puis cet objet, il est quand même d'une certaine façon discret, il va circuler, il va être possédé, il va vivre sa vie. Bon. Internet et le web, pour que ça marche, il faut vraiment qu'en permanence, il y ait une alimentation électrique, il y ait tout un système actif, présent, de nœuds qui soit bon. Si on n'a plus d'électricité, on aura vraiment tout perdu. Hein. Alors que même dans le cinéma, on aura encore la pellicule. Je veux dire, on peut encore regarder les pellicules. Sans énergie, on n'a plus d'Internet. Donc, c'est vrai que d'une certaine façon, ce caractère extrêmement dynamique, bon, on a mis du temps avant d'aller vers le participatif, mais qu'il le portait, cette notion de cette écriture en continu, de cette écriture réversible, enfin, partagée. C'est-à-dire que, pour revenir sur ce que je disais hier, c'est-à-dire que, bon, finalement, virtualiser, quoi, c'est remettre en cause, c'est remettre en question, c'est reproblématiser. Probablement, Internet, enfin, les écrits sur l'Internet permettent plus facilement cette remise en cause que les écrits sur un livre. Parce que je peux modifier mon exemplaire, effectivement, mais comme c'est une multiplicité d'exemplaires discrets qui sont séparés, je vais avoir plus de mal à diffuser. Voilà. Donc, bon, moi, j'étais pendant très longtemps très réticent quand les opérateurs télécom ou Internet parlent ils parlent de services aussi. Et alors, pour moi, ça me semblait, parce qu'en général, en plus, les services auxquels ils font référence sont des services de très, très, très bas niveau. Mais dans le fond, on pourrait aussi un peu leur donner raison. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans Internet et le web qui est plus dans ce mouvement dynamique.
Merci, oui. Pour ajouter une autre bande. Donc, oui, évidemment, il y a ces trucs de dynamique, il faut toujours qu'il y ait un mouvement, sinon ça, on perd tout. Ça me fait penser comme ça, hein, au Faust de Goethe. Et à l'invention du papier, comment on dit des pièces, un papier, comment on dit je ne sais pas le mot en français, l'argent, les billets, voilà, qui n'ont de sens que s'ils circulent. Si un jour quelqu'un demande, rends-moi, ça ne marche plus. Donc si quelqu'un demande de le bloquer, c'est du papier acheté, comme faisait Gainsbourg à Asbel. Donc il y a quelque chose de ce type-là, bien sûr, dans cette dynamique.
Oui, merci Marcello. Moi, très, très rapidement, je voulais juste d'abord te remercier parce que je crois que tu as fait la théorie de l'exposé que je ferai tout à l'heure et qui, dont je redoutais que tu sois très, très confus par rapport à ces questions et tu as, je crois, vraiment bien établi justement cette ambiguïté du numérique ou de l'Internet à la fois dans le continuum et la discrétisation. Donc, je reviendrai moi-même sur ces notions, mais déjà, je pense que là, tu as éclairé beaucoup de choses. Je voulais, comme Jacques, revenir sur l'exemple que tu as pris, mais je pense que c'est plus qu'un exemple autour de la photographie et le cinéma avec Malbridge. Moi, je voulais évoquer aussi Étienne Jules Marais. Alors, pourquoi Marais aussi ? Parce que je pense que peut-être plus clairement encore que Malbridge, on voit dans son travail, justement, là aussi, l'ambiguïté, la double dimension à la fois de la discrétisation, peut-être poussée encore plus loin chez Marais que chez Malbridge, parce que je ne sais pas pour ceux qui connaissent, qui ont ça en mémoire, il y a non seulement l'image arrêtée du mouvement, mais il est allé ensuite beaucoup plus loin, hein, avec toutes ces, justement, les instruments qu'il a inventés, le fusil chronophotographique, etc., jusqu'à produire des images totalement, enfin, quasi abstraites, hein, du mouvement, en plaçant par exemple uniquement des plaques de métal réfléchissantes en fait le long du corps d'un modèle, et donc sur l'image produite on n'a que des lignes, hein, on a vraiment des graphiques, on passe dans le graphisme. Donc là on est complètement effectivement dans cette abstraction de l'arrêt du flux, hein, de la fragmentation du flux qui produit une certaine connaissance et qui est effectivement très liée chez Marais au pouvoir, hein, puisqu'il y a un enjeu non seulement de connaissances physiologiques, morphologiques, anatomiques, mais il y a surtout un enjeu d'exploitation de la force physique, soit des soldats, soit des ouvriers, hein, à un certain moment, de l'administration politique. Et en même temps, chez Marais, on le sait, ses travaux ont aussi beaucoup servi dans l'histoire dans l'apparition et le développement de l'aéronautique, hein, bien sûr, puisqu'il y a eu aussi notamment l'observation par cette chronophotographie du vol des oiseaux, qui a été fondamentale dans le développement de l'aéronautique ensuite. Et là, on est plutôt dans
la reproduction, l'imitation du mouvement, hein, y compris dans ses effets même, alors, qui n'est pas sans rapport sans doute aussi avec le pouvoir, bien sûr, hein, mais et là, je pense, enfin, moi, ça m'a toujours passionné justement cette ambiguïté, et simplement, je voulais aussi rappeler à ce sujet que ça permet de mieux comprendre aussi les malentendus qu'il y a entre photographie et cinéma, c'est-à-dire qu'évidemment, le cinéma, c'est pas mieux que la photo, c'est pas non plus moins bien, on a dans un cas le gain, c'est l'arrêt du mouvement, et dans l'autre cas, c'est la simulation du mouvement, c'est l'illusion du mouvement. Et justement, je viens de prononcer le mot et je m'arrêterai là. Je pense que ce que tu as expliqué sur cette ambivalence entre fragmentation et flux, c'est justement toute l'ambiguïté de la simulation, hein, dont on était un petit peu parti pour construire cette séance aujourd'hui. La simulation, l'intérêt, c'est à la fois qu'elle est de l'ordre du discret, effectivement, pour pouvoir décomposer toutes sortes de phénomènes complexes, ou les reproduire justement parce qu'on a d'abord discrétisé des flux, et puis dans le registre plus peut-être des industries du divertissement dont on a parlé hier, et notamment bien sûr donc de l'usage qu'on en fait au cinéma dans les fameux effets spéciaux, bah là on est dans la simulation, on est dans l'illusion, on est dans le fait de s'appuyer sur des formes de persistance rétinienne ou d'autres formes d'illusion. Voilà, donc j'ai pas vraiment de questions, mais pour te dire à quel point ça suscitait des échos dans mes propres références ou propositions que je ferai tout à l'heure.
Moi, j'ai aussi une question. C'est vrai que cette idée d'une résistance, une espèce d'ambiguïté comme ça entre un mouvement et la possibilité d'un récursant, je la trouve très intéressante. En revanche, je serais beaucoup plus réticente par rapport à l'usage en fait, que tu fais effectivement d'Aristote et de la notion de virtuel chez Aristote. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il me semble vraiment que la notion virtuelle, on pourra en discuter, mais je pense que c'est une notion médiévale. C'est-à-dire que, pour moi, le dynaton aristotélicien ou la dynamis n'a absolument rien de virtuel, puisque le virtuel est vraiment attaché à une problématique théologique qui est celle de l'intellect divin, ou alors à une problématique logique de l'inclusion virtuelle par rapport à l'inclusion formelle. Donc ça me semble, déjà, de ce point de vue-là, un peu compliqué. Et puis, surtout, par rapport à l'usage que tu fais de la définition qu'on trouve en delta 12, il y a quand même un problème, c'est que l'arché à laquelle on peut effectivement donner en grec un sens politique et qui a dans le langage courant en grec un sens politique, Aristote prend bien soin, dans le même livre, toujours delta de la métaphysique, de distinguer et de prévenir contre les homonymies et qui sont précisément entre... C'est-à-dire que l'arché, elle peut être considérée comme un principe de mouvement, elle a un sens physique, et il y a aussi un sens politique, mais ce n'est pas le même. Et du coup, il me semble aussi que ça pose problème par rapport à l'utilisation que tu fais de la notion d'impassibilité, c'est-à-dire une capacité de résistance, qui là aussi est une notion physique, alors que le sens politique, il faudrait aller le trouver plutôt tout simplement dans l'épistémicomaque ou dans la politique, où là on a bien au contraire une dynamis métallogou qui va être pensée comme capacité effectivement de faire, de ne pas faire, de choisir, etc. Mais il me semble là il y a des glissements qui, du point de vue aristotélicien, sont vraiment gênants. C'est-à-dire que, cette notion d'ambiguïté, je pense que ce serait beaucoup plus intéressant de la prendre vraiment dans ces enjeux numériques. Je ne suis pas sûre qu'Aristote puisse vraiment fonder cette notion de l'ambiguïté. Ou alors pas à partir d'un sens physique.
Heureusement, il n'est pas là pour nous le dire. J'avoue que je suis un très mauvais lecteur d'Aristote aussi, c'est-à-dire que je l'utilise concernant de façon, je vais dire un peu où je veux. Je sais bien que probablement je vais un peu trop loin dans mes tiraillements. Mais une chose sur laquelle je suis pas tout à fait d'accord, c'est que je pense que, bien sûr, virtual est un mot, est un concept qui naît donc dans la scolastique, donc avec un sens qui est théologique, un effet par rapport à l'intellect divin. Thomas d'Aquin qui parle de la création qui est virtuellement un dieu, et donc. Mais je pense que le mot naît pour résoudre un problème qui est un problème d'Aristote, et quand je parle d'ambiguïté, l'ambiguïté de la définition qui peut-être n'est pas vraiment seulement celle, parce qu'en effet on pourrait aller chercher d'autres textes, etc. Et l'ambiguïté de fond, c'est que Aristote ne sait pas, et ça j'en suis plutôt sûr, même un mauvais lecteur d'Aristote, Aristote n'a jamais trancher entre plénitude ou pas. C'est-à-dire, il sait pas si accepter le principe de plénitude selon lequel tout possible se réalise un jour. Hein,
là, je
serais assez d'accord. Et moi, j'ai cette impression-là que d'une part, il l'accepte justement pour critiquer l'abstraction du possible, etc. Et de l'autre part, de temps en temps, il fait les trucs, par exemple, du manteau, de la cape qui pouvait être coupée, mais elle n'a pas été coupée parce que vous avez laissé.
Alors, justement, et je pense que ça permet de résoudre un peu le problème qui nous intéresse aussi sur la problématique numérique. Il me semble que chez Aristote, il y a en fait une distinction établie entre le champ physique et le champ éthique-politique. C'est-à-dire que dans le champ physique, effectivement, le principe de plénitude fonctionne. Il y a au fond un déterminisme, l'ordinateur va s'actualiser s'il y a la puissance complémentaire. En revanche, dans le champ pratique, éthico-politique, c'est là qu'il y a de la contingence et c'est là qu'il y a une impossibilité d'un principe de plénitude. Donc c'est là aussi que ton analyse peut être intéressante, dans le champ éthico-politique. Mais ce qui me gêne un tout petit peu, c'est la notion d'impatibilité, c'est quand même d'abord une notion physique.
C'est pas. Donc j'accepte, et en effet, oui, on pourrait probablement revenir à ça, et alors on a fait l'analyse, surtout à partir des interprétations, et en particulier des concepts des programmes des futurs convergents, en particulier, il y a des
rappels, etc. C'était pour sur un auteur sur lequel il y aura peut-être moins de dissension, et qui est Bergson, en fait. J'ai trouvé très intéressant l'usage que vous en faisiez, parce qu'effectivement, Bergson, ne serait-ce que déjà chronologiquement, est vraiment au croisement de monde, hein, à la charnière du début du XXe siècle. Et il me semble que de ce point de vue, il est intéressant à la fois sur un plan, et c'est effectivement ce qu'a montré aussi Deleuze, à la fois sur un plan esthétique et sur un plan épistémologique. Et que les deux sont vraiment articulés dans sa pensée et sont finalement articulés en particulier autour de la question du vivant. C'est comme s'il y avait, il y a vraiment, vous citiez effectivement son rapport au cinéma, il y a ce chapitre de l'évolution créatrice qui s'intitule le mécanisme cinématographique de la pensée ou l'illusion mécanistique. Et qui a exactement, qui recouvre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire en quelque sorte qu'il y a comme, enfin que la pensée de Bergson cristallise comme une sorte de tragédie de la volonté de connaître. Dès l'instant où on veut connaître, on fige l'objet de la connaissance. On le rend mort. Et c'est précisément ce qu'il reproche à la pensée des Eléates et au paradoxe de Desmondéliens. Oui, mais, en fait, ce qu'il reproche à la pensée des Eléates, c'est ce qui est au cœur de la pensée humaine en général. C'est ce qui est la problématique de la pensée. Et il me semble que c'est aussi, d'une certaine manière, et dans ce que vous disiez tout à l'heure, la problématique du rapport au numérique. Aussi de la même manière, c'est-à-dire qu'est-ce qui effectivement oblige à figer ce qui est dans un mouvement et oblige en fait de ce point de vue à méconnaître ce que l'on veut justement connaître. Voilà. Et il me semble que la question du virtuel est vraiment au centre de cette problématique-là.
Oui, je suis tout à fait, juste un mot, oui, je suis tout à fait d'accord, sauf que je essaierai d'éviter, et je ne sais pas, c'est pour corriger un peu ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, hein, mais j'essaierai de ne pas juger de façon négative cette discrétisation. C'est-à-dire, je pense, même si je l'ai montré comme... parce que Bergson, par contre, non, il la juge comme si c'était négatif. Moi, j'ai l'impression qu'elle est inévitable. Et que donc ça fait partie de notre. Et donc ce n'est pas un mal de discrétiser, on est obligé de le faire, c'est très bien. C'est un peu frustrant parfois.